conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque. À Conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Attention, veuillez prendre note qu'il s'agit d'une rediffusion de l'émission que vous tentez d'écouter. Nous retournerons à la programmation normale par la suite.
Votre animateur, Patrick Couture.
Quelle erreur d'être venu écrire cette introduction dans ce salon de thé. Il m'arrive la même chose qu'à chaque fois que je viens travailler ici. Je me laisse distraire par les conversations des autres clients. À ma gauche, une mère et sa fille semblent renouer. Plus loin, deux jeunes gens discutent avec l'énergie d'un couple qui commence à se dater. Et derrière, dans la partie boutique du magasin, il y a ce cinquantenaire qui se découvre une passion pour le thé. Il achèterait tous les produits sur place si sa femme n'était pas là pour le freiner. Le quotidien des autres m'apparaît soudainement mille fois plus intéressant que le mien. Et je me dis que c'est la littérature qui m'a amené à me passionner si vivement pour ces scènes d'apparence banale. À force de côtoyer des œuvres littéraires, je me suis mis à observer le monde comme un roman plein de fabuleux détails. C'est l'un des plus beaux effets de la littérature sur ma vie. Elle a enchanté le banal.
Bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord et, je ne sais pourquoi, je me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touchait à mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi.
On entendait donc une lecture du très célèbre passage de la Madeleine dans Du côté de chez Swann, 1913, le premier tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Cette version audio était proposée par la chaîne YouTube Culture Générale. Bon, pourquoi faire jouer ce passage iconique? Eh bien, c'est l'un des plus grands moments de la littérature moderne, le point de départ d'une œuvre magistrale, mais c'est également la description de quelque chose d'assez banal au premier abord, c'est-à-dire le goût d'une madeleine trempée dans le thé. Il me semblait que c'était de mise là, pour commencer cet épisode du Cabaret du Crachoir sur l'écriture et la banalité. De commencer donc avec cet extrait qui montre bien que nous nous attaquons à une thématique très féconde. Effectivement, le banal est un thème récurrent dans la littérature. Plusieurs auteurs, autrices manifestent une grande fascination pour ce qui est à première vue banal ou trivial, anodin. Enfin, on se promènera dans ces termes aujourd'hui. Pour l'anecdote d'ailleurs, là, dans les premiers brouillons de Proust, il s'agissait non pas d'une madeleine, mais d'un pain rassis. Un motif là encore plus moins noble que la fameuse Madeleine. Enfin, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un épisode sur un vieil auteur français mort depuis plus de 100 ans, car nous allons discuter de la banalité dans l'écriture avec deux personnes bien vivantes. Il s'agit d'abord de Émy Lapointe, étudiante, journaliste et enseignante au collégial, qui a fait paraître en 2021 son premier livre chez Le Méac, un recueil intitulé « Les maris se briseront sous tes pieds ». Elle finira bientôt son mémoire de maîtrise en études littéraires volet recherche-création et entamera le doctorat à l'automne. Nous entendrons d'ailleurs des extraits de la partie création de son mémoire aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Salut Patrick.
Bien content de te recevoir. Et nous sommes également avec Héloïse Leblanc, qui est artiste multidisciplinaire. Elle a publié Le hockey en pulpe l'année dernière aux éditions de La Maison en feu. Certains extraits de ce recueil de poésie sont parus dans des revues telles que L'écrit primal, Saturne, Les Éphélides et Nyx. On aura la chance d'écouter sa lecture d'un passage de ce livre tout à l'heure. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
D'ailleurs, je souligne quand même qu'Héloïse s'est déplacée de Montréal aujourd'hui pour venir nous voir. On est bien, bien, bien content de ça. Alors, les filles, la banalité, quelle place ça occupe dans vos pratiques respectives? Quel rapport entretenez-vous avec le banal dans vos écritures? Peut-être Émilie d'abord.
Mais je pense que d'abord, c'est essentiellement ce que je recherche comme lectrice, avant de rechercher ça comme autrice. Je pense que au départ, j'avais un intérêt pour la littérature d'une autre époque, du bon vieux Balzac. Puis même si je me suis bien amusée, on dirait qu'il n'y a rien eu comme la littérature de l'intime, surtout la littérature de l'intime des femmes au Québec, essentiellement, où on racontait d'immenses choses dans de toutes petites choses, dans de toutes petites sphères, souvent justement la sphère privée, dans l'intimité, dans la maison, dans les endroits près de la maison. En tout cas, pour ma part, je pense que j'essaie de m'inscrire dans cette... Bon, filiation, c'est un gros mot, là, mais dans cette filiation-là de ce que j'aime lire. Fait que j'essaie d'écrire ce que j'aimerais lire, ish. Évidemment, toujours plus cringe après ça quand on lit ce qu'on écrit, mais... ouais, puis je pense que je suis une fille aussi hyper routinière dans la vraie vie. Puis j'adore la routine. J'adore les mardis, j'adore le cycle incessant des choses qui reviennent sans cesse, presque pareil. Je trouve ça extraordinairement relaxant et très sécurisant.
Le cycle incessant des choses qui reviennent sans cesse, on va écrire ça quelque part. Mais oui, mais puis c'est particulièrement intéressant par rapport à une certaine vision qu'on a de la littérature, surtout narrative, avec le fameux, ce qu'on apprend, l'élément déclencheur, où le but de la littérature serait de nous sortir de cette routine-là. Mm-hmm. Alors, on va pouvoir parler, je pense, aujourd'hui, justement, des pratiques qui nous ramènent à cette routine, qui permettent de porter un autre regard dessus. De ton côté, Héloïse, la banalité?
Ben, pour commencer, ma poésie, c'est souvent des gribouillages au crayon de bois, en fait, dans un carnet. Fait que c'est très banal là, comme début. Puis c'est à travers l'écriture de chaque vers que là, il y a une tentative de déplier, créer une distance avec la charge sensible contenue dans les choses du quotidien, là, dans les moments banals. Puis je pense que j'aime ça inspecter le tout petit, le retravailler éventuellement pour lui donner un sens. C'est à travers les réécritures, je pense, que le banal prend toute son ampleur. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu disais, Amy, par rapport à la littérature des femmes, le fait que s'intéresser à ce qui était autrefois le domestique, l'intime, l'espace de la maison, c'est propre à la littérature et à la voix des femmes, au Québec aussi. Fait que, ouais, je pense que je trouve que c'est intéressant de penser à comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans aussi.
Et on va pouvoir voir tout ça, en discuter plus amplement à partir de vos propres créations. On s'apprête à entendre un extrait, comme je disais, là, du mémoire à Amy. Puis il n'y a pas de titre pour l'instant, ou un titre provisoire?
Ah non, il n'y a pas du tout de titre pour l'instant. Là, ça s'appelle « Sans titre » dans mon ordinateur et « Fuck le mémoire » dans mon dossier. Fait que, à modifier avant d'envoyer à ma directrice.
Oui. Donc, c'est sous forme d'entrée de journal, on peut déjà le dire. Nous te suivrons là, du 24 septembre 2021 au 28 mars. Ça a peut-être changé en fait 2022, mais on est dans ces eaux-là, avec des entrées dans un journal. Alors, Amy, on te laisse la place. «
27 septembre. J'ai gorgé toute la journée les copies de mes étudiants et étudiantes. Les participes passés ne sont pas acquis, la capacité à articuler une idée non plus. J'ai aussi reçu une nude d'un non sollicité d'un gars. Je lui ai dit que le fait d'être gay lui donnait pas le droit de le faire, qu'une queue, c'est une queue. J'ai aussi joué au spikeball sur un gars de 21 ans de 5 fois. 29 septembre. J'ai la lèvre enflée à cause du spikeball. Je pense que juste pour ça, on devrait me refuser toutes les bourses de doc. 30 septembre. Je suis tannée de corriger les dissertations sur Charles Perrault. Ils n'aimeront jamais la littérature comme ça. J'aime pas la littérature comme ça non plus, comme je pense pas que j'aime enseigner au cégep. J'ai pas ce qu'il faut pour enseigner à l'université, pas le cœur pour enseigner au cégep, peut-être faire un MBA. 1er octobre. Finalement, je pense que j'aime quand même mes étudiants. On a lu des lettres. Ils ont ri d'Elisabeth II, ils ont rien compris à Oscar Wilde. Ils m'ont demandé si ça voulait dire que Virginia Woolf s'est tuée après sa lettre. Je leur ai dit que oui. Ils m'ont demandé pourquoi elle avait fait ça. Je me suis retrouvée devant 24 étudiants et étudiantes en éducation spécialisée. Je leur ai demandé ce qu'il fallait. Je leur ai dit ce qu'il fallait, que la santé mentale, c'était encore plus tabou à l'époque que maintenant, qu'elle était très malade, qu'après une vie de 60 ans en délit avec la maladie, elle avait fini par mettre fin à ses jours. Il y en a une qui a dit que ça n'avait pas de sens de se suicider aussi vieille. Je lui ai pas dit que ça avait tout autant de sens, même plus que de se pendre à 36 ou 19, mais j'ai rien dit, j'ai lu la 10e lettre. Le MRS au Titanic, nous coulons, vite, passagers transférés en bateau. 3 octobre. Hier soir, William et Sophie sont partis vers 21h. Je suis allée rejoindre un gars chez lui, c'était la troisième fois qu'on se voyait, la première chez lui. Je m'étais dit que je déterais plus de gars. Mais lui, il faisait juste m'écouter en hochant de la tête quand je lui parlais de mon mémoire, jamais besoin de me justifier. Il travaillait en programmation, en deep learning, il était toujours habillé en noir ou en velours côtelé. Les deux fois qu'il venait à la maison, il a tenu à laver la vaisselle qu'il avait utilisée. Il ne chialait jamais sur la musique que je mettais, que je mette du Céline Dion ou Nekfeu. Il avait son appartement à lui, pas de coloc, un chat sans poil, des bouteilles de vin dans un petit cellier, aucune vaisselle dans l'évier. Un fond d'accent français qui gossait, mais des cheveux en bataille et une des peaux les plus douces que j'ai touchées. On a bu du vin blanc, pas une bouteille à 11$. J'avais pas vraiment envie de boire, j'ai rien dit, mais il s'en est rendu compte à la moitié de ma coupe. Il m'a demandé si je voulais du thé à la place. J'ai dit oui. Il m'a fait une tasse avec la même attention qu'on aurait en jouant au Mikado. On écoutait le premier album d'Indochine, mais je me suis endormie. Je me suis réveillée et il se branlait à côté de moi. J'ai poussé un « qu'est-ce que tu fais? » Il a figé la queue encore dure dans sa main droite, la gauche sur ma cuisse. Je suis allée mettre mes souliers. J'ai dit de me commander un Uber. Il a remonté son boxeur, son pantalon, a pris son téléphone pour faire ce que j'avais demandé. J'ai attendu dehors. Il aimait Patrick Bruel, I should have known. 6 novembre. Sabrina m'a amenée à la rivière. Pas à la rivière Saint-Charles, à la rivière Montmorency. Elle a conduit jusqu'au milieu d'un quartier résidentiel de Beauport où tu peux pas aller chercher une pinte de lait sans prendre ta voiture. On s'est arrêté sur la rue de la Licorne. Ça m'a semblé absurde. On a pris un bout d'asphalte entre deux jumelés et sans m'en rendre compte, on était sur le bord de la rivière avec une couverture, une tasse de thé, de la pizza tiède et le soleil était tombé. Sab me dit que Cassiopée est là, que la grande ours est là. Je vois juste des points blancs épars qui pourraient tout aussi bien être des lumières d'avion, des satellites. Rien de tout ça ne m'impressionne, je ne ressens pas l'immensité. Je me souviens plus de la dernière fois où j'ai été aspirée par un vide plus grand que moi. Tous les vides qui m'aspirent sont immensément petits, des centaines de petits vides. Mes os se cassent pour y entrer. Sabrina, impressionnée par le ciel, m'impressionne plus que le ciel tout seul. 2 décembre. J'ai bien de me faire un café, je déteste le café, c'est le premier café que je me fais de toute ma vie. Florent, Virginie et Ab parlent dans le salon. Je suis contente, ils s'écoutent, se confient des trucs, je mets du Noël instrumental binaural avec mes écouteurs, précis de même. Je termine la partie intérêt du sujet. Je pleure en écrivant, je suis brûlée, je tourne pas la tête, je ne veux pas qu'on voit que je suis rendue juste à cette étape-là et que je pleure déjà. 6 décembre. Je dors plus depuis plusieurs heures. Dors, il neige, ce sera une tempête aujourd'hui. La première fois que j'ai rêvé d'un shooting de masse, j'avais 11 ans. J'étais chez mon père, je l'ai pas réveillé cette fois-là. J'ai vomi dans une poubelle en dessous de mon bureau, j'ai fait un nœud dans un sac j'en coutu. Le sac était un peu troué, alors j'ai mis de côté pour le jeter au dehors le lendemain matin. Je suis allée à la salle de bain, j'ai brossé mes dents, je me suis assise dans la baignoire sur pattes qui a jamais fonctionné. J'étais avec mon chien Balou sur moi. J'avais vu les previews du film Polytechnique en allant au cinéma avec mon père. Les gars d'un côté, les filles de l'autre. Et comme ça, à 11 ans, les school shootings allaient remplacer les tremblements de terre dans mes rêves. J'ai pas rêvé à une souris cette nuit. Je pense que j'ai pas rêvé du tout. Un sommeil trop fragmentaire, mais en me réveillant un peu avant 2h, j'ai rage cry. Je sais que tout le reste de la journée aura rien d'autre en fond de trame que ça, que tous les hommes que je croiserai, je les haïrai, que toutes les femmes que je croiserai me font penser à elles. Je lis Les Trouées de Chantal Nadeau. Flashback 3. Le 6 décembre 89. Neige. Neigeait-il ce soir-là? Je ne sais plus, mais peu importe, dans ma tête à moi, il neigeait. Il neigera toujours le 6 décembre. Le blanc de la neige, le noir d'une nuit de décembre, le rouge des gyrophares. J'invente le blanc de la neige pour mieux étouffer le rouge du bain de sang qui coule dans ma tête toute de noir vêtue. Toujours, il neige au milieu de nulle part, 12 mois par année, et la neige avale les corps qui crient. Slow death en direct, la neige me tue parce qu'elle est vraie, et chaque flocon touche le sol pour disparaître, une trace sans trace. 8 décembre. Le messie de Handel, les violons du roi, une chorale, des solistes, un gin tonic sans lime. Je suis née pour être bourgeoise, parce que les bourgeoises sont malheureuses même si elles ont tout. Il n'y a rien de plus beau qu'être malheureuse sans raison, morte d'un chagrin inexplicable, raconteront-ils. 30 janvier. J'ai pas fait de réaction allergique au fromage bleu, une fois de plus. Je peux donc en conclure que ce que j'ai lu sur Reddit n'était pas vrai. Ce n'est pas parce que t'es allergique à la pénicilline que tu l'es aussi au fromage bleu. Je suis allée au Super C de Vanier à 13h et c'était dimanche. J'ai utilisé les caisses libre-service. Un article inattendu a fait son apparition dans la zone d'emballage. Un sac a été retiré dans la zone d'emballage. Demandé l'autorisation d'un commis pour cet item. Puis j'ai acheté mon gingembre et mes biscuits chips à œil en paix. Le retour en présentiel demain me déplaît. Je crois que c'est du stress alors que j'ai toujours préféré ça. Et Florence m'a demandé tantôt si j'allais mieux ou si je sentais que j'entrais dans une phase dépressive. Les psychiatres, elle n'a pas peur des mots. 5 mars. Ils ont installé une lune près de chez moi. Une lune moins grosse que la vraie, mais au moins grosse comme 10 caravanes. On m'a dit qu'il s'était fait à partir de photos prises par la NASA, que c'était la vraie lune. La vraie lune est dans Saint-Roch pour 3 jours seulement. Mais c'est quand même 3 fois plus long que les vraies pleines lunes. Et la lune est arrivée en même temps que la première fin de semaine de réouverture des bars. Quand je suis allée la voir, la lune, j'ai dû passer devant des groupes d'amis sous, et les gens sous m'effraient, les gars surtout. Mais tous les dangers valent la peine quand il est question d'aller presque toucher la lune, la vraie, celle de la NASA. 6 mars. J'ai passé 10 heures à l'université un dimanche de relâche. C'est souvent un mauvais signe. J'ai aussi écrit à mon père pour lui dire que j'arrêtais pas de pleurer, mais de pas m'appeler que je voulais pas pleurer au téléphone. J'aurais voulu manger chez ma mère ce soir. 21 mars. Je pense pas qu'il y ait une couleur plus cheap que le fuchsia. 22 mars. J'ai monté pour la première fois de ma vie un meuble. C'est une console, 6 morceaux en comptant les pattes. Rien de difficile, rien qui rende fier. Ça rend moins fier, en tout cas, que d'avoir réussi jusque-là à toujours faire monter mes meubles par les autres. Les couchers de soleil en ville sont plus beaux qu'en région, et même que sur le bord de l'eau. Le rose qui se reflète sur la tôle brune des logements subventionnés, le orange qui fait oublier la laideur du nouveau Colisée. Léonard Cohen avait peut-être raison, la lumière entre par les failles. 27 mars. Je me réveille seule, même Béchamel est sur le sol. Mon cadran n'a pas encore sonné, je ne sais pas pourquoi je mets encore des cadrans, il ne me réveille jamais. En plus, on m'a appris que les dimanches ne devraient servir à rien d'autre qu'à préparer le lundi. Je ne me souviens plus du moment où j'ai tué la tradition du dimanche, quelque part à la fin de mon bac, sûrement. J'ai fait un peu de ménage, j'ai commandé l'épicerie, mais c'est tout ce que j'ai gardé des dimanches de ma mère. Plus de déjeuner lent à la maison ou au restaurant, plus de thé, de chocolat chaud, de jus de fruits moitié sucre devant des émissions enregistrées, plus de marches dans le quartier, plus de livres lus pour le plaisir, plus de siestes l'après-midi, plus de tomates confites au four pendant des éternités. Je ne vois plus le golden hour, je n'écoute plus la télévision le dimanche soir. Mes dimanches soirs ne bouclent plus rien du tout. Il n'y a plus de temporalité marquée, plus de cycle qu'une spirale qui ne se rapproche jamais du centre, qui ne se rapproche de rien. Et je suis là dans mon lit, il est presque 8h et je suis déjà en retard. Mon cœur se lève sans ma tête, je le laisse sous ma nouvelle couette bouffante. On ne voit pas son relief, pas plus que celle de mon orque en peluche, pas plus que mon chat. Les 3 resteront là aujourd'hui sous le soleil de mars, sous la neige en pluie ou la pluie en neige, et j'ouvre la fenêtre pour elles, parce que l'après-midi est sans pitié dans ma chambre. J'attache mon Apple Watch, je les embrasse et je sors sur la pointe des pieds.
On écoutait donc un extrait de Sans-titre d'Émile Lapointe ou de Fuck le mémoire.
Ce sera sûrement un titre long là, parce que ça me plaît bien, mais avec un verbe, mais c'est là où j'en suis.
Mais donc de ce journal de où le quotidien est très présent, c'est notre thématique du jour au Cabaret du Crachoir, c'est l'écriture de la banalité, écrire le banal, et puis nous sommes pour l'occasion avec donc Émile Lapointe. Et Héloïse Leblanc. Héloïse, qu'est-ce que tu as pensé de ce texte, de cette lecture?
Bien, c'est une lecture qui rentre dedans, là, pour commencer. Je trouve que la forme de ton texte sert vraiment, finalement, le propos, parce qu'on a un rythme qui est haletant, il y a une répétition des mêmes actions, c'est la correction des copies, l'écriture ou la non-écriture. Mais aussi, ça nous plonge dans autant dans ce qui est cyclique, mais aussi de ce qui est de discontinu, là, les petites apparitions du spikeball, des dick pics non sollicités. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous plonge vraiment dans un quotidien. C'est ça, le quotidien, finalement. Puis ben, c'est surtout, je pense, la violence du banal là, qui ressort pour moi. Ce qui se tisse à l'échelle de l'extrait avec l'accumulation des fragments, c'est vraiment ça, là, le fait que le banal, on peut pas le banaliser, là, c'est un mauvais jeu de mots, mais dans la mesure où on voit cette violence-là, puis on la sent énormément.
Oui, effectivement, il y a quelque chose dans l'uniformité de l'écriture, où on va, la prose qui va finalement s'intéresser à différents sujets, certains rattachés directement à la banalité, alors que d'autres, bon, parfois c'est des faits, là, je pense entre autres au fromage bleu, des moments d'ailleurs plus comiques, là, mais j'ai ri à certains instants, alors qu'on a des moments qui sont plus graves, là, je pense entre autres à la scène où la narratrice au-dessus, je sais pas.
Non, tu peux dire moi, là, okay, c'est bon, j'assume ma posture.
Parfait, parfait. On veut pas non plus. Mais effectivement, donc, où tu te réveilles à côté d'un homme qui a commencé à se masturber sans ton consentement, ou le passage au sujet des tueries, donc qui sont quand même plus lourds. Mais tout, l'écriture vient traiter de la même façon, donc toujours avec la même prose. L'effet est puissant parce qu'on s'attend normalement à ce que ce genre de scène soit décrite d'une manière qui accentue les émotions vécues, alors que, comme je disais, là, c'est tout le contraire. D'une certaine manière, c'est un coup d'œil horizontal sur l'expérience humaine. Je sais pas si tu es d'accord déjà avec ce que j'avance ici.
Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est un truc qui est à la fois ma force et aussi ma très grande faiblesse. C'est comme quasiment un tic d'écriture. Là. Je suis très, très factuelle, je suis très descriptive en général. Il y a peu de discrétion, peu de lyrisme aussi. Là. Fait que je pense que c'est quelque chose. J'essaie de. Pas de travail là-dessus, mais de travailler à partir de ça puis de voir qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Mais c'est comme vraiment présent dans mon écriture, l'espèce de entre autres, on m'a reproché dans mon ancien livre de vraiment décrire tout le temps l'apparence des gens puis de les diviser en deux clans, les beaux et les laids. Mais c'est juste comme un qualificatif de base, mais pour moi, ça a autant d'intérêt à être écrit, le violent que le pas violent, que le rien du tout, tu sais. Puis avec le même degré d'intensité, là, un peu comme on pourrait, par exemple, en études littéraires, étudier avec autant de sérieux un livre issu de la littérature dite, mettons, de la chick lit, qu'un livre de Balzac. Là, dans ma tête, on les prend puis on les analyse de la même façon. Fait que je pense que j'ai tout le temps la même lunette partout. Fait que tu sais, ça... Mm-hmm. Ça peut être donné un style, ça peut être gossant par contre.
Mais en fait, il y a un effet de démocratisation, si on veut, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'horizontalité, parce qu'on pourrait utiliser le terme aplatissement, mais ça semble péjoratif, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout, dans le sens où c'est ça, où on met à égalité les choses, et ça provoque l'effet que Héloïse parlait, finalement, de débanaliser le banal. Oui.
Ben c'est ça aussi, j'ai l'impression que, étant donné qu'il y a l'uniformité que vous mentionnez dans ton écriture, il y a aussi un rythme qui s'apparente au temps vécu. Je trouve que c'est très fort quand on parle du quotidien, d'être capable de reproduire ce rythme-là aussi dans l'écriture.
Oui, effectivement. Et puis, moi, un sujet quand même qui m'intéresserait de parler, c'est l'ironie, le cynisme. Je parlais des rires. Il y a des rires, plutôt légers. Il y a des rires noirs aussi là, qui viennent à t'entendre, à te lire. Donc, on sent quand même que ça nourrit cette espèce de... Ben, est-ce que tu es d'accord avec le mot cynisme?
Oui. Ben oui, je suis super d'accord. C'est un gros truc avec lequel je lutte tant dans mon écriture que dans la vie de tous les jours. Là, j'ai vraiment pas envie d'être quelqu'un de cynique. Je pense que j'y tombe. En fait, je pense que je suis plus cynique dans mon écriture que dans la vraie vie. Je pense que l'écriture porte au cynisme. Mais j'aimerais ça travailler sur vraiment faire un mouvement contraire là, par rapport à ça. Je sais pas si c'est le ralentissement des choses quand on écrit qui me fait comme... devenir mais oui, un petit ton acide là, en général. Après ça, les fragments que j'ai choisis sont particulièrement, je dirais pas froids, mais disons un peu chirurgicaux. Mais puis mon premier recueil est que bâti là-dessus. Mais ce qui me fâche, c'est que vu que j'ai dit que, tu sais, quand tu me disais, t'es-tu, c'est-tu toi, c'est-tu, pis là, j'étais comme, j'ai dit oui. Mais on dirait que je me sens super malhonnête quand je lis ça parce que ça reflète pas. J'arrive pas encore à faire ressentir toute la douceur que je ressens 80% du temps. Alors que, comme, c'est vraiment plus ça qui m'habite, pis c'est plus ça qui m'anime, qui me touche en général. Mais Chris, j'arrive juste à chialer sur le fichier.
Mais oui, mais je pense que aussi, c'est, dans le sens, c'est un toi qui est en train de se manifester dans ton écriture, dans cette forme-là, où, de ce que j'entends, le cynisme est un moteur un peu malgré toi, mais ça donne l'effet est là, l'effet est fort. Puis, moi, le questionnement que j'avais, c'était par rapport à notre thème du jour, si justement, dans notre rapport à la banalité, il y avait un lien avec le cynisme, je pense, de. Je sais pas, c'est vraiment une question, puis je vous la lance. Est-ce que vous pensez que en étant particulièrement intéressé par le banal, ça nous emmène à rapidement, j'allais dire tomber dans le cynisme, alors que je veux pas encore je pense que c'est bien, je pense que dans ton texte le cynisme dont je parle est très bien, mais donc c'est ça, verser dans le cynisme, est-ce que vous pensez que
mais il y a peut-être quelque chose dans la douceur du banal qui est trop passif pour qu'on l'écrive, qui est difficile à écrire finalement. Puis le fait d'être cynique, ça permet d'être dans une écriture qui est peut-être plus ponctuée, plus. Il y a quelque chose de plus vif comme émotion dans le cynisme que le fait d'être passif devant la douceur. Je sais pas si t'es d'accord.
Ouais, je suis vraiment. Je pense que c'est vraiment plus difficile écrire la douceur en général, parce que c'est une émotion qui se vit très doucement. T'sais. Non, mais ça se vit très bas, c'est dans l'espèce de d'échocardiogramme que ça pourrait faire, les émotions de la vie, tu sais. Le cynisme, c'est pas très haut non plus, mais c'est des petits pics plus facilement perceptibles, j'ai l'impression. Puis je trouve qu'il y a comme un je sais pas si vous connaissez, en plus j'aime pas la personne, mais on va prendre, mettons, ce qui est écrit là, même il faut pas faire ça, je suis pas d'accord avec ça, mais pour aujourd'hui, je sais pas si vous avez déjà entendu son discours This is Water de David Foster Wallace, qui est un philosophe américain qui a écrit qui a fait un discours, j'adore les discours, un jour à des gens qui finissaient le bac, puis ça s'appelle C'est de l'eau, puis entre autres il parle du quotidien, puis de cette espèce de roue dans laquelle on va être aspiré, puis dans laquelle le vrai travail, ça va être de tout le temps essayer de faire un petit pas de côté. T'sais, par exemple, il donne des exemples justement excessivement banals de la personne devant toi à l'épicerie qui est crissement désorganisée, qui trouve pas ses crises de cartes, qui arrive pas à genre payer, puis que il s'anime quelque chose en toi, puis le travail, puis c'est là, tu sais, je pense que mon travail d'écriture, ce serait de faire genre, bon, la personne gosse devant moi, ce serait ce que j'écrirais, mais j'aimerais arriver à parler de cette personne-là avec un peu plus d'empathie, ou pas nécessairement d'empathie, mais un peu plus, ben oui, là, d'empathie, là, c'est cool, mais un peu plus de curiosité, puis un peu plus de patience. Puis je pense que c'est comme... je pense que c'est comme les deux voies possibles du banal, là, l'espèce de poésie, puis l'espèce de routine sans sens, là.
Ouais, puis je pense que une peur qu'on peut avoir d'aller plus du côté positif de la description du banal, c'est une forme de quétainerie, d'avoir peur de tout simplement d'écrire les choses, puis de même parfois les idéaliser. Donc je pense parfois aussi l'ironie, l'humour peut être quelque chose qu'on utilise pour contrer ça, pour éviter de tomber là-dedans. On va pouvoir continuer ces réflexions-là. Le temps a filé, j'ai pas vu du tout, mais on serait déjà rendu à la pause et on va pouvoir justement avoir un autre coup d'œil sur la banalité qui n'est pas du tout le même et qui n'est pas non plus quétaine. Donc ça va être merveilleux. On va pouvoir avoir une autre proposition après la pause avec le texte d'Héloïse Leblanc. On passe à une courte pause publicitaire et on se retrouve au cabaret du Crachoir chez 94.3.
Semaine, la semaine prochaine. chaîne, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expect depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non.
Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour vous, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh, ben.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheez 94.3.
Le cabaret du crachoir. Cheez 94.3.
Nous avons des idées ou des possessions que nous n'avons pas choisies, mais nous les gardons quand même. Nous avons des morts et des regrets, des sœurs et des frères, de la poussière et des cicatrices. Nous avons froid et peur. Nous avons dans nos maisons toutes sortes d'objets qui nous encombrent. Nous avons des souvenirs dans lesquels rien n'arrive. On attendait l'autobus, on passait le balai. Nous avons des tracas et des oublis, des habitudes et des hontes. Nous avons un corps et un nom. J'ai un visage que je préférerais n'avoir pas. Ce que je cache, il le montre. Ce que je tais, il le trahit. Je connais des gens qui paraissent calmes quand ils s'affolent et amicaux même s'ils s'ennuient. Leur contrefaçon demeure imperceptible, leur visage prend la forme de ce qu'ils disent, mais le mien me révèle comme un confident déloyal. Quand je parle, je me dédouble, je suis dans ce que je dis, mais aussi dans ce qui me raconte, et souvent il me semble parler en retard ou parler en second. Si je pouvais choisir qui je suis, je serais une voix de téléphone, car j'aurais une vie de fée. Je pourrais parler à tout le monde sans que personne ne me voie. Je serais la fée des dents, parce qu'elle vit en secret et dans la nuit. J'ai cherché des endroits où l'on pouvait perdre son visage. Et
ce qu'on entend, c'est la poésie de Camille Renman Prudhomme. Je suis désolé si j'ai mal prononcé son nom de famille. C'est un extrait de son recueil « Quand je ne dis rien, je pense encore », paru en 2021 chez Oua de Cravant. L'extrait est d'ailleurs tiré de la chaîne YouTube de la maison d'édition. Il a été publié dans le cadre de leur lancement au printemps 2021. La voix qu'on entendait était celle de l'autrice elle-même. Dans le descriptif de Oua de Cravant sur YouTube, il est question d'une poésie claire de la complexité de nos silences. Je fais des grosses recherches pour cette émission-là. Donc, dans mes poésies claires de la complexité de nos silences, il me semble qu'il y a là un rapprochement évident avec notre thématique du jour au cabaret du crachoir, soit écrire le banal, car quoi de plus banal que le silence? C'est l'une des invitées du jour qui m'a fait découvrir ce recueil, Héloïse. Je crois d'ailleurs que c'est un livre qui t'est cher, non?
Oui, ben je trouve que Camille est tellement généreuse dans sa façon aussi limpide qu'intelligente de parler là, de ce qu'il dit là, que c'est ce qu'il camoufle, ce qu'on observe, mais qu'on peine à nommer, là, mais qu'elle nomme si bien. Puis justement, juste cette sensibilité face au monde, tout ça m'a touchée énormément quand j'ai lu son recueil.
Émilie, est-ce que tu connais ce recueil?
Oui, c'est un recueil qui m'a beaucoup plu dans les dernières années. Là, je m'étais comme un peu éloignée de la poésie qui est cause contemporaine, puis Élise a utilisé le mot disloqué, puis je pense que c'est vraiment une espèce de, je dirais pas un regard décalé, mais ou le regard décalé qu'il faut pour justement nommer l'innommé, là. Ouais.
Oui. Ben, d'ailleurs, c'était Amy qui nous lisait avant la pause, là. Elle nous a partagé un passage de la partie création de son mémoire. On a bien apprécié, puis ça a alimenté des belles discussions. On va poursuivre nos réflexions sur les liens entre l'écriture et la banalité. À partir du texte d'Héloïse, maintenant, elle va nous lire le segment « Le doux de mon crâne » tiré de son recueil « Le hockey en pulpe ». On vous invite à vous procurer le recueil complet, mais on va avoir droit là, à une petite partie. Alors, c'est à toi, Héloïse.
La rosée s'est déposée trois fois, après chacune de tes douches sur le carrelage où je m'assois. Utiliser la force de mes annulaires pour redresser ma poitrine, barrer la porte de la salle de bain. Finalement, seule face au miroir, me refuse compassion pour les plis d'humidité sur mes orteils, les marques de ceinture sur ma taille, les nœuds qui arquent ma nuque, incapable d'accueillir ce qui fait trace. Ce qui m'excède, encoche aux abords de mon auriculaire qui tire les fils de tes serviettes lorsque je m'essuie les mains, je le coupe. L'ongle en rectangle arrondit les angles juste au-dessus du nœud, le place dans son linceul. Un seul carré de papier tire la chasse d'eau pour en finir avec l'excédentaire. J'aurais envie de t'offrir ma droiture, l'érosion de mes doutes, une patience en convection. Mais ne sonnent pas tout de suite les cloches du dimanche. Ma peau cuivrée comme celle des pétales se distend puis se ride, s'affaisse sur la courte pointe inachevée. Ma migraine formule le besoin de coloniser de plus grands espaces, s'exile vers mes pointes cassées. J'ai le cheveu lourd, l'envie de déprendre ta main de mes nœuds, des dalles de mes tresses. Je récupère tout dans mes sourcils, mes débordements, ton scepticisme. Je cherche l'ombre pour les faire sécher, mettre en pièces mon cuir chevelu à l'abri des regards. Dans l'espoir de trouver la couleur qui se loge sous ma peau, je me désintègre entre les os de mes phalanges. Teinte que j'espère jaune pruneau, mais la pressent bleue, assemblée de tout ce que je ne peux distinguer. J'ai levé la main, volontaire. Mon index se jouant du risque, s'offre à la pointe des ciseaux et dans l'élan renverse le contenu de l'étagère. J'agrippe le rasoir, entame la coupe à blanc, me départ de ma parure, retrouve ma capacité à me toucher. Les fines lames coupent les mèches et le cou s'enflamme, encore. Hypersensible aux pointes qui percutent les dalles, ne manque que l'ampoule à changer pour que brille le lustre du crâne. Finalement débarrassée, la peau rentre en contact avec les vents d'en dessous. Je ne cherche plus à éliminer la statique, dévide la trajectoire des mèches anciennes. L'index croise la courbe de mon sein, mamelon qui pointe vers la lampe. Trébuche le petit doigt dans la cavité du nombril, tendresse sur mon ventre vide. Soudainement besoin de me faire un chignon haut, symptôme du cheveu fantôme, pour te signaler la disposition de ma nuque à être déshabillée, dépossédée des cols roulés, tatouée d'un toit, d'une lucarne, d'une persienne, puisque c'est mon corps que j'habite. Empilé puis plié, il faut mettre l'emballage sous le poids de ce corps. Frippe la surface de la fibre blanchie. L'usure en origami n'est pas une brisure. Je cure mes failles, te les donne à voir sur les étagères de la salle de bain. J'ai tiré le rideau de douche, laissé l'eau couler sur ce qui de ma peau a succombé à l'épluchette. Mes échecs en seuil, les jeux d'ombre sur le plastique perlé m'amènent à m'écouler encore un moment. Ouvert la porte pour retrouver la fenêtre, la vue de leur chevelure blanchie, celle des voisines, auxquelles aucun gris ne s'arrime. Je me retiens d'y goûter. Tu étudies encore les agrumes insulaires et reproduis dans ta chambre les textures des pelures et du grès. Tu m'offres une miniature de l'orange sanguine, et dans tes pots de confiture, j'ai trouvé du fortuit. Sur le bureau en désordre, la liste de mes hésitations trône à côté des cartes de souhait. Celle que je remplis de mes excuses lorsque je m'approche des fêtes, m'enfarge dans vos chevelures. Tu me dis, vérifie dans le tiroir du haut s'il reste un conseil affûté, une lame en offrande pour te débarrasser de ta corne. Je ne trouve rien à saisir ou à dire, mais nous imagine choisir l'huile d'argan, emprunter la lame, la posture confiante pour les années à venir.
Extrait du hockey en pulpe d'Héloïse Leblanc. Lui par Héloïse Leblanc. Merci beaucoup pour ta lecture, Héloïse. Allons voir immédiatement ce qu'en a pensé Amy.
Ah, on dirait qu'à chaque fois qu'il faut pas réagir, mais revenir d'une lecture aussi comme calme et apaisante. Je trouve ça toujours gossant quand on parle après.
Je suis désolée, c'est le concept de l'émission.
J'aime vraiment... Hey, je suis tellement impressionnée, justement, on parlait de... On avait une discussion hors d'onde, sur le rapport à la sensorialité, mais l'espèce de... On avait aussi parlé un petit peu, qu'on s'était parlé sur Zoom, mais de l'aspect... la sensorialité, mais vraiment... Surtout, moi, c'est le sens du toucher, là, qui comme... Et hyper exacerbé, puis je trouve que c'est comme un travail de maître, de rapprocher de ses sens. Tu sais, la vue, je trouve que c'est facile à stimuler par l'écriture, mais les sens comme le toucher, je trouve ça hyper difficile, puis je trouve que tu le fais excessivement bien. L'espèce de dialogue, j'allais dire dialectique, c'est imbuvable, entre... le corps, en fait, entre l'intérieur du corps puis le monde, puis qui passe finalement le véhicule de communication, c'est finalement le corps, tu sais, pour le meilleur et très pour le pire aussi. Puis l'espèce de... Ben, je sais qu'on va reparler des cheveux, là, mais au moins comme un espèce de lien autant hyper rassurant, voilant, que hyper contraignant. Puis quand tu parles du cheveu fantôme, puis de le verre sur l'origami, puis sur le pli, puis sur l'usure.
Oui.
c'est une phrase infinie, mais
c'est ça que je... Oui, mais c'est ça des impressions. Si c'est ça le but de l'émission, après tout, c'est réagir à vivre comme ça après des lectures. C'est l'effet cabaret. Mais effectivement, une poésie où le corps prend beaucoup de place, c'est un corps, on a tout le corps. Donc, dans le titre, oui, on parle de peau, les mains, auriculaires, ongles, cheveux, orteils, j'en passe. Et d'ailleurs, très beau passage que je voulais relire, qui est le suivant. Soudainement, besoin de me faire un chignon haut, symptôme du cheveu fantôme, il m'y parlait, pour te signaler la disposition de ma nuque, à être déshabillé, dépossédé, des cols roulés, tatoué d'un toit, d'une lucarne, de persienne, puisque c'est mon corps que j'habite. J'aime beaucoup la formulation, puisque c'est mon corps que j'habite. Puis c'est très naïf comme question, mais je me demandais tout simplement pourquoi l'intérêt pour le corps, puis quel lien même on pourrait faire aussi avec la banalité, là. Corps, je peux entendre là-dessus, Héloïse.
Ben ouais, ben le corps, en fait, c'est notre frontière la plus immédiate là avec le monde. Puis je trouvais ça, dans cette section-là, j'ai vraiment essayé de dépeindre un lieu restreint, une salle de bain. Mais c'est comme si la salle de bain n'est pas suffisante. Là, c'est encore le corps qui est la plus petite unité qu'on habite. Puis mais je trouvais ça intéressant que tu disais, Amy, que c'est pour le meilleur et pour le pire, là, le fait de ressentir tout à travers le corps, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la douleur, de la difficulté à habiter son corps aussi, là, qu'on peut lire dans ces vers-là aussi. Puis, ben oui, je vais citer Barthes, moi aussi, je vais être vraiment lourde.
Non, c'est vraiment pas lourd. C'est jamais lourd, c'est Barthes.
OK. Mais je trouve qu'il dit mieux que moi. Donc, la citation est la suivante. « Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. »
C'est une de mes citations préférées de Barthes. J'adore. C'est trop... Mais c'est...
Bienvenue dans une émission qui rassemble pour la plupart du temps des gens qui étudient la littérature à l'université. C'est le seul endroit où on peut entendre une phrase comme « C'est une de mes citations
préférées de Barthes. »
Ouais. Top 1. Mais oui, vas-y, Amy, je t'ai coupé dans ton élan.
Ah non, mais je trouvais vraiment que la citation était très bien choisie. Merci, c'était ma seule intervention à ce propos. Mais je trouve ça intéressant de comme parler de l'endroit à habiter, de la salle de bain. Puis là, tu parlais justement de l'extrait avec la nuque à déshabiller, avec la lucarne, la persienne. Je suis pas certaine de savoir, architecturalement parlant, c'est quoi une persienne. I guess que c'est comme une fenêtre.
Okay. Vraiment, les persiennes, c'est des trous pour voir à voilà. travers. Là,
OK,
là,
okay
là,
super. Ça. On est dans le vert, ça, quoi. c'est l'espèce de... Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est hyper... Ça y est, Descartes. Non, mais c'est super occidental, là, notre affaire. Là. C'est l'espèce de... Mais je peux dire que je sens la... Est-ce qu'on parle de narratrice? Est-ce qu'on parle de narratrice?
Ben oui, je pense qu'on... Ben, c'est la voix narratrice. Oui,
la... Ouais. De la poésie semble quand même... à la fois prise dans son enveloppe charnelle qui est un peu protégée, tu sais. Puis c'est... Puis quand tu parlais de douleur, c'est... comme si ça appartenait, la douleur du corps, comme si ça appartenait pas à nous, alors que qu'on, c'est là, tu sais, notre cerveau, c'est autant notre nous que comme, pis c'est super, je connais rien en littérature orientale, mais je serais curieuse de voir, on dirait une ouverture de conclusion de CGB, mais ce rapport-là, justement, au corps, est-ce que, c'est parce que nous, on le voit vraiment comme un deuxième pan à notre être, puis comme étant justement le pan qui est en communication avec les autres. Puis aussi, tu sais, la citation de Barthes, puis c'est là-dedans qui est ce qui est bon, Barthes. Tantôt, on parlait de Camille Prudhomme qui nomme l'innommé. Là. Barthes a fait ça toute sa vie. Là. Le pauvre est mort d'un accident d'auto, mais il s'est fait frapper ou je sais pas trop. Là. Mais trop rapidement, puis il a pas eu le temps de nous dévoiler tous ses secrets. Mais quand tu parlais de la citation de Barthes comme façon d'entrer en dialogue, non seulement avec le monde, mais avec les autres aussi, tu sais. OK.
Oui, puis ben sur le lien avec le corps dans tout ça, puis tantôt, je proposais peut-être aussi de lier ça avec le banal. Il faut quand même dire pour situer plus les gens. Bon, c'est, tu parlais de rapport occidental au corps, c'est que longtemps, on a séparé le fameux corps-esprit ou corps-âme et tout ça. Puis il faut dire qu'il y a en ce moment un intérêt marqué mm-hmm. pour le corps dans la littérature actuelle, mm-hmm. littérature québécoise actuelle. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on négligeait du corps dans la littérature, disons, classique pour grossir les traits, c'est que c'était considéré comme un sujet qui était beaucoup trop trivial. Mm-hmm. Alors que là, ce qu'on voit, c'est justement que cet intérêt pour le corps de sortir peut-être un peu aussi de ces distinctions-là, corps-esprit, ben, ça nous permet à toucher à ben, l'indicible. Puis, ben, je sais pas, j'aimerais ça vous entendre sur la valorisation du corps dans la littérature récente, parce que ben, c'est chez toi aussi, Amy, quand même, il est présent d'une autre manière, ces deux explorations, deux regards sur le corps très différents. Mais qu'est-ce que vous pensez qui nous emmène à nous tourner tout d'un coup à découvrir toute la potentialité d'écrire sur le corps? Est-ce que vous avez des hypothèses à cette question?
Ben, j'aimerais situer aussi le rapport au corps comme dans mon écriture à moi, il y a quelque chose de proprement féminin dans la mesure mm-hmm. où je pense que l'expérience de la douleur, le rapport au corps est peut-être différent aussi quand on pense à toutes les dynamiques genrées. Mm-hmm. Puis je pense aussi que c'est important de réfléchir au à la voix comme aussi étant quelque chose de très corporel. Mm-hmm. Puis je trouve que la poésie, étant donné que c'est ça, j'avais réfléchi aussi au rapport au silence, là on en a parlé tout à l'heure, puis je pense que la poésie, ça entretient un rapport différent au silence, puis comme si chaque mot, tout ce qui est énoncé, c'est plus sélectionné. Je veux pas dire réfléchi.
Non, c'est ça quand même. Dans ma tête, dans la poésie, le poids des mots
ouais.
est plus important dans la sélection, en effet.
Ouais. Puis je pense que, justement, ça sous-tend comme un ralentissement aussi. Là, dans ça fait en sorte que, autant dans la prise de parole, donc ce qui est corporel, on s'attarde à chaque action, à chaque mot qui va être énoncé. Je pense que ça change aussi le rapport dans l'écriture quand on s'intéresse au sujet du corps. Ben, ça ralentit aussi notre rapport ça nous ramène à des détails, à des sensations qu'on aurait pu écarter autrement. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est ce que j'avais à dire.
Oui, et ben, je suis content que t'en parles parce que on s'est lancé les discussions sur le rapport au corps, mais moi, de prime abord, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le contraste de vos deux propositions. Avant la pause, on avançait rapidement dans le temps, à travers différents moments du quotidien, le tout dans une prose qui est très simple, tandis qu'ici, avec Héloïse, on est dans une suite poétique, bon, un poème qui est à l'inverse, concentré dans le temps, comme tu le disais, on est dans un moment, dans une chambre de bain, et qui se présente aussi dans une langue poétique qui est plutôt recherchée, raffinée, ce qui n'empêche pas bon, que les deux démarches se rejoignent, puisque dans le rapport à la banalité, le quotidien, mais il me semble que la poésie, ici, celle d'Héloïse, donne davantage l'impression d'un arrêt sur image. Tu parlais de ralentir le temps, je ne sais pas si arrêt sur image est bon, parce que ça renvoie trop directement au sens de la vue, alors qu'on a quelque chose qui ralentit le temps, mais à tellement plus de niveaux que seulement visuellement. Donc, c'est ça, un ralentissement. Puis c'est une manière d'entrer pleinement dans le moment. Bon, déjà, est-ce que c'est l'effet qui est escompté, ce ralentissement-là? Je pense que oui, mais tu l'as déjà nommé.
Mais je pense aussi que arrêt sur image, c'est un bon terme à utiliser, parce que je me sens quand même proche de l'image malgré tout. Tu sais, je me suis posé la question récemment, puis je pense que le langage visuel, c'est quelque chose auquel je me réfère beaucoup. Puis, ben c'est ça, je suis beaucoup nourrie aussi par des recueils comme celui de Camille, là, qui permettent de ralentir, d'observer les actions du quotidien. Puis, ben en fait, la citation en exergue de mon recueil aussi, en fait, c'est une citation de Francis Ponge, tirée du recueil Le Parti pris des choses. Puis la citation va comme suit, vous allez comprendre pourquoi elle est importante. Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'écriture narrative puis la poésie. Comme si t'es l'orange qu'on... on essaie d'aller chercher le jus de l'orange en poésie, puis ça laisse des marques aussi. Fait qu'il y a comme un arrêt aussi dans le geste, il y a des traces. Puis des fois, je pense que, étant donné le temps long de la narration, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'éponge. Je sais pas, j'essayais de faire un lien aussi. Mais autrement, cette citation-là me nourrit beaucoup parce qu'on est dans une cuisine, on est avec des objets qu'on pourrait facilement ignorer. Mais... dans ce poème-là, ça nous permet de réfléchir à l'usure liée aux différentes prises de parole, celles qui restent inachevées, celles qui se contredisent, celles qui achoppent. C'est celle-là qui m'intéressait dans le recueil. Là. C'est ça, mais OK, en fait.
C'est très beau. Et pour terminer, malheureusement, c'est une des émissions qui file le plus rapidement. Mais j'aurais aimé quand même, je parlais de le contraste de vos démarches respectives, puis on pourrait, en grossissant vraiment les traits, là, je veux pas aller de manière trop binaire, en vous opposant complètement, mais quand même, chez Héloïse, une écriture qui est davantage du côté très assumé de la poésie, en opposition à une prose très prosaïque chez Amy. Et là, je voulais m'amuser au jeu des comparaisons pour terminer, là, en demandant d'abord à toi, Héloïse, qu'est-ce que cette forme, ce langage poétique permet, que tu penses que tu n'arriverais pas à retrouver dans la prose? Puis peut-être après, Amy, de ton côté, voir... comme je dis, c'est parce qu'il y a tellement plus que ça, et ces catégories-là se mélangent de plus en plus, mais quand même, si on s'amuse.
Mais on disait hors d'onde qu'on aimerait toujours pouvoir faire ce que l'on ne fait pas. Mais oui, moi, je pense que c'est durant l'écriture de mon recueil que j'ai réalisé que les choses les plus près de moi pouvaient être les plus difficiles à nommer. Puis la poésie, c'est un outil qui m'amène à, justement, m'intéresser à ces choses-là, les déplier, leur donner un sens, là, ultimement. Puis ça, c'est justement, ça fait en sorte que ça interroge différemment les silences. Puis je pense que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, en plus d'être une forme qui me vient plus facilement, je pense. Ouais.
Je pense que j'aurais comme envie de dire pourquoi la poésie serait mieux. Mais je pense que... parce que pour l'instant, je m'inscris dans... et chez les écritures du réel, mettons. Je pense que la prose, même si en apparence, ça a l'air très intime parce que c'est du diaristique, je pense que la prose, en tout cas la mienne, me permet beaucoup de pudeur, tant sur le plan comme de l'écriture que du contenu.
Puis je pense que c'est, ça reste un bon mécanisme de défense d'écriture pour l'instant.
Ouais.
Écoutez, on va poursuivre les réflexions de notre côté parce que l'émission tire déjà à sa fin. On vous remercie, je vous remercie grandement. Je sais pas pourquoi je fais toujours comme si on était 8 à préparer cette émission-là. Je vous remercie beaucoup. On accueille aujourd'hui au cabaret du Crachoir Amy Lapointe. On vous invite à vous procurer son livre, La Marie se Les Maris, désolé, se briseront sous tes pieds. Suivez également la publication de son projet de mémoire qui ne devrait pas tarder.
On verra. Okay. mais tu sais, éventuellement, là, ça devrait trouver le chemin des presses, mais peut-être plus en 2024.
D'accord. Mais bon, on suit ça. Merci beaucoup, Amy. On recevait également Héloïse Leblanc qui a publié Le Hockey en Pulpe l'année dernière. Elle travaille actuellement sur un deuxième recueil et sur un projet de roman graphique.
J'adore les romans graphiques. J'ai trop hâte de voir sur quoi tu travailles.
Oui, ben, on a bien hâte de voir ça, effectivement. Merci, Héloïse.
Merci.
De notre côté, côté du crachoir, cet épisode était exceptionnellement, quand même pas facile à dire, enregistré un dimanche. Il sera rediffusé le lundi 27 mars à 11h. Nous reviendrons dès la semaine prochaine, soit le 3 avril, la semaine suivante, pour le dernier épisode de la saison. Il sera question du lien avec, entre l'écriture et la scène. Nous serons avec Eve Nadeau, qui m'accompagnera à l'animation pour une deuxième fois. Et nous recevrons pour l'occasion Steven Lee Potvin et Irma Bouchard. On se laisse aujourd'hui sur les gloires du matin du groupe Avec Podcast. C'est une recommandation d'Héloïse. Merci beaucoup. C'est paru sur l'album Effets spéciaux en 2016. D'ici là, vous pouvez également nous retrouver sur le site de Shiz, sur Spotify, sur iTunes. Nous sommes le cabaret du crachoir à Shiz 94.3.
Je me suis réveillé au milieu de tout ça. Emmêlé au milieu de tout ça.
On a des tonnes de copies. Écoute local! Écoute Shiz 94.3. Chiz 94.3 FM, à Québec.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex.